France Info.
Bonsoir à tous. C'est l'histoire de quelqu'un qui revient d'un long périple à travers les zones les plus désertiques et les plus hostiles du monde, et cela a duré des années. Il est de retour, il allume la radio, entend que c'est l'heure des informés, et évidemment, il ne sait pas de quoi il s'agit. Eh bien, c'est donc à lui que je vais m'adresser, lui, l'ermite, le déconnecté. Les informés, c'est l'émission de débat de France Info. Chaque soir, quatre personnalités viennent nous donner leur opinion sur l'actualité, avec plus ou moins de bonne foi. C'est comme ça, tous les soirs c'est différent. Et je vais donc vous présenter les heureux élus du jour. Bonsoir Eugène Bastier.
Bonsoir.
Journaliste au Figaro, aux pages idées et opinion. Fatia Bouzalat, bonsoir à vous.
Bonsoir à tous et à toutes.
Vous êtes enseignante, essayiste, militante féministe, auteur de plusieurs ouvrages, Le Grand Détournement ou bien Combattre le voilement. Alexis Poulain, bonsoir,
bonsoir
à vous. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et puis Paul Nahon, bonsoir Paul Nahon, journaliste, membre de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. Soit dit en passant, vous êtes probablement le seul dont notre ermite médiatique se souvient, sans doute. Voilà pour le casting, allez, c'est parti pour une heure de débat. L'actualité aujourd'hui, c'était la venue de Greta Thunberg, jeune militante de la cause climatique. La Suédoise a été invitée par un collectif de députés. Certains l'adorent, estimant qu'elle apporte un peu d'air frais à la cause. Chez d'autres, elle fait plutôt monter la température, ce qui n'est jamais bon en ces temps de canicule. Alors, vous allez évidemment nous dire ce que vous en pensez, mais on va d'abord écouter un extrait de son discours.
Certaines personnes ont choisi de ne pas venir à cette réunion aujourd'hui. Certaines personnes ont choisi de ne pas nous écouter. Ce n'est pas grave. Après tout, nous ne sommes jamais que des enfants. Vous n'avez pas le devoir de nous écouter. Par contre, vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous vous demandons. Unissez-vous derrière les scientifiques. Merci.
Greta Thunberg, qu'est-ce que vous pensez de sa venue? C'était une bonne idée de l'inviter, Fatia Bouzalat?
Déjà, elle ne s'est pas exprimée dans l'hémicycle en tant qu'élue représentative d'un peuple. Elle a été invitée dans une salle, ça m'est déjà arrivé d'être invitée, donc c'est à l'initiative d'un député de la majorité. Elle a 16 ans. Elle plaît beaucoup aux gens, il y a le côté star system, storytelling, collection d'images. Non, ce que j'ai trouvé franchement ridicule, c'est l'attitude de midinette des députés. Et rappelons-le, il y a quelques années, ils s'étaient comportés de la même façon face à Pamela Anderson.
Les députés qui étaient venus ou qui ne sont pas venus, qui ont boycotté?
Aurélien Taché qui a posé une question d'une stupidité abyssale en disant « j'aime voyager, est-ce que vous aussi vous aimez voyager ?»
Ouais, c'est intéressant.
Le député John Forget français de Suisse lui a apporté son rapport comme si elle avait un pouvoir de décision, des vraies midinettes, comme face à Pamela Anderson. Donc moi, j'en veux pas à cette jeune fille parce que tout est bon à prendre, tellement la situation est grave, mais j'en veux à ses députés.
Eugénie Bastier.
Oui, moi je suis assez d'accord. Je ne partage ni l'hystérie anti-Greta Thunberg, ni l'enthousiasme délirant à son égard, ni le jeunisme, ni l'anti-jeunisme. C'est-à-dire que oui, elle représente quelque chose. Elle représente un mouvement de la jeunesse, et oui, la jeunesse a quelque chose à dire sur cette question climatique puisque c'est son avenir qui est en danger. Cela dit, oui, j'ai un peu du mal aussi avec cette forme assez incantatoire et comminatoire de s'adresser comme ça aux politiques en disant « faites quelque chose ». Je la cite, elle dit « essayez de faire quelque chose ». Bon, après on lui demande s'il faut pas signer le CETA, elle dit « je n'ai pas d'opinion là-dessus ». Donc on se demande quelle est la chose en question qu'il faudrait faire, puisque elle ne dit pas précisément les solutions qu'il faudrait tout de suite, là, maintenant, mettre en œuvre.
Elle a 16 ans.
Oui, elle a 16 ans, mais une chose de dire faites quelque chose, c'est une autre chose de proposer des solutions, et c'est bien là tout le gouffre qu'il y a entre une écologie idéalisée et une écologie politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la politisation de l'écologie, c'est comment on passe d'une nécessité qui est universellement partagée, qui est de combattre le réchauffement climatique, les moyens concrets. Et j'ai l'impression que, encore une fois, Greta Thunberg, avec toute la sincérité qu'elle a et la beauté de son engagement, sert un peu aussi d'alibi et l'emblème aussi d'une écologie aussi impuissante qui est un peu dans l'injonction sans être véritablement politique.
Greta Thunberg, un alibi, c'est votre opinion aussi, Paul?
Non, c'est pas un alibi, mais je trouve que cette fille est assez astucieuse. Hein. J'ai suivi ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale. Elle n'était pas dans l'hémicycle, elle est dans une salle à côté.
En dessous,
pas très loin. Ouais. Mais en tout cas, elle a été très astucieuse en disant « moi je peux rien, c'est simplement les politiques ». Et elle s'est cachée, si j'ose dire, ou elle s'est abritée derrière les scientifiques du GIEC. sont là, ils travaillent, ils sont extrêmement sérieux. Toutes leurs recommandations depuis pas mal d'années sont suivies des faits. Et ce qui se passe dans le climat aujourd'hui le prouve. Les GIEC est assez formidable au niveau des constatations et des travaux. Et je trouve que cette fille a été formidablement astucieuse en disant « c'est pas moi qui ai la solution, c'est vous les politiques, travaillez ». Alors le seul petit problème, c'est que ce serait bien que cette jeune fille aille aussi très loin en Chine. Et en Inde, les deux plus grands pollueurs de la planète.
Elle ne peut pas prendre l'avion, vous imaginez son empreinte carbone.
Attendez, la Chine, on peut très bien y aller en train, mais c'est pas sûr qu'à l'Assemblée nationale chinoise, on l'invite aussi facilement.
Alexis, enfin, plutôt astucieux.
Et encore, ouais. La Chine a beaucoup changé par rapport à la pollution. Hein. C'est un pays
c'est un vrai souci, absolument. J'ai
compris qu'il ne pourrait pas durer longtemps sans ça.
Non, en même temps, je ne suis pas sûr que Greta Thunberg soit la bienvenue.
Mais Greta Thunberg, elle est sincère dans sa démarche. Elle a 16 ans, mais il y a quelque chose d'assez malsain dans ce qu'il y a autour. Enfin, c'est un peu un cache-misère. Ça permet à chacun de s'abriter, en fait. La parole d'un enfant, c'est une parole qui n'est pas considérée. Donc, c'est pratique. Elle le dit, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Je suis une enfant. Alors, pas vraiment une enfant, une adolescente. Donc, c'est une parole qui n'a pas le poids
bien
politique.
Bien entourée, quand même, aussi.
Et bien entourée. Et puis, derrière, il y a bien sûr un marketing vert utilisé par la famille qui permet d'en faire un business. Et ça permet aux politiques de poser pour le selfie, comme on a eu le sommet de la Terre, où Emmanuel Macron est très fier de se prendre en selfie avec Arnold Schwarzenegger. C'est pas ça qui va faire qu'on va lutter contre le réchauffement climatique. Faut arrêter. C'est simplement de la posture pour tout le monde, pour Greta comme pour les députés. Vous disiez, voilà, comportement de midinette, mais c'est exactement ça. On vient chercher en fait l'approbation du public en disant, regardez, moi aussi, j'ai rencontré Greta, je suis complètement habité par ce principe de l'écologie. C'est faux, et il faut que ça cesse.
Et Macron a reçu Greta. Macron a reçu Greta.
C'est obligatoire. C'est-à-dire, on reçoit, mais on ne fait rien derrière. Et elle le dit. Et ce qui est pire, c'est qu'elle le dit. Et vous ne faites rien. 50 ans d'alerte climatique, il faut le rappeler. Premier sommet de la Terre, 72 à Stockholm. 50 ans que les statistiques et que les climatologues disent la même chose.
On va continuer à débattre de Greta Thunberg. Mais d'abord, c'est l'heure de l'info. Il est 20h10. Jules De Kiss vient de nous rejoindre dans ce studio pour nous faire un petit tour complet de l'information.
Pas d'irrégularité en général, mais des prestations manifestement excessives pour trois dîners qui étaient à caractère privé. Voilà les conclusions de l'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire des dîners de François de Rugy. Le rapport épingle l'ancien président du Palais Bourbon pour trois repas à caractère familial ou amical à Noël et pour la Saint-Valentin. Il n'aurait donc pas dû être imputé sur les frais de réception du président, d'après cette enquête. Jamais un texte n'a suscité autant d'opposition au sein de la majorité. Le CETA est bien adopté par l'Assemblée nationale, mais 61 marcheurs se sont abstenus ou ont voté contre cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Cela représente un député de la majorité sur 5. C'est maintenant au Sénat d'approuver ou de rejeter le texte. Presque toute la France est en alerte canicule. Seule la Bretagne, la Corse et les bords de la Méditerranée sont épargnés. 80 départements en vigilance aux fortes chaleurs d'après Météo France. 5 le sont aussi pour des risques d'orages. La Manche, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne et le Calvados. Les livreurs de repas sont-ils des travailleurs indépendants ou des salariés des plateformes qui les mettent en relation avec les clients et les restaurants? La justice française va devoir trancher. Un livreur de Toulouse attaque Uber Eats en justice car lui considère qu'il est un salarié à part entière. Son avocat lance une action collective. Il espère que son client sera rejoint par des confrères. Et puis Caleb Ewan remporte sa deuxième victoire cette année sur le Tour de France. Succès au sprint à Nîmes. Demain, une nouvelle étape de plaine attend le peloton avant le retour de la montagne. Jeudi, les Alpes. Elles seront théâtre de la lutte pour la victoire finale. Le Français Julien Alaphilippe est toujours maillot jaune.
France Info. 20h-21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et premier débat des informés ce soir autour de la venue de Greta Thunberg, cette jeune Suédoise de 16 ans à l'Assemblée nationale. Alexis Poulain nous parlait à l'instant de marketing vert. C'est votre avis également, Jenny Bastier?
Je pense qu'elle est sincère, qu'elle n'est pas manipulée en tant que telle. Je pense que c'est une cause qui l'habite depuis très très longtemps, etc. Mais je pense que malgré elle, elle peut servir de caution et d'habillage à des gens qui n'ont pas vraiment envie de changer les choses. Et on le voit aujourd'hui. Enfin, elle a été quand même invitée et applaudie par une majorité qui l'après-midi même a voté le CETA. Et il me semble quand même qu'il y a là une contradiction insurmontable, c'est-à-dire que d'un côté on avait des députés LR qui votaient contre le CETA, mais ne voulaient pas venir voir Greta Thunberg. Thunberg. Et de à l'inverse, on avait des gens qui allaient voir Greta Thunberg et qui allaient voter ensuite pour le Sénat. Dans les deux cas, il y a une sorte de contradiction. Ou d'ailleurs, je pense qu'il y a plus de cohérence chez les députés LR. Mais il y a cette espèce de contradiction fondamentale. On ne peut pas le matin dire qu'on est le
à condition de faire le lien entre le CETA et le réchauffement climatique.
Make the planet great again. Et ensuite, le slogan de Macron écologiste. Et ensuite, accélérer le libre-échange et des échanges de marchandises qui vont d'un continent à l'autre et qui vont mécaniquement augmenter la pollution et un désastre environnemental. Donc c'est pour moi une incohérence, et c'est le en même temps qui se heurte finalement à l'incohérence absolue entre l'horizon écologique et l'horizon du libre-échange.
Fatia Boudjallat,
c'est pour rebondir sur ce que disait Eugénie, vous prenez Trudeau au Canada, voilà quelqu'un qui base sa communication sur le fait de respecter l'environnement et qui a donné son accord pour faire construire un gigantesque gazoduc ou oléoduc à travers des terres qui étaient des réserves naturelles.
Oui, voilà. On dira que c'est compliqué, la politique.
C'est le storytelling. Et que Greta dise qu'elle n'est pas écoutée, elle est écoutée. La figure de l'enfant, et d'ailleurs on oublie qu'elle a 16 ans parce qu'effectivement elle est très menue pour son âge, c'est la figure la plus apte à susciter l'empathie chez tout le monde, que ce soit le corps du petit Eilan, que ce soit Malala. Mais tout le monde écoute les enfants. Donc c'est un peu court de dire « je sais que vous ne m'écoutez pas, mais en fait écoutez-moi ». Je trouve que c'est assez malsain, surtout qu'elle tient un discours très anxiogène. Mais après, quand on lui dit « donc qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'on est bête, on recherche toujours malheureux le pays qui a besoin de héros. Voilà. Ben elle dit « je ne sais pas, je ne sais pas ». Donc elle vulgarise les rapports du GIEC qui... ne satisfont pas les hommes politiques, qui ne les intéressent pas. Voilà son principal atout. Mais voilà, c'est une petite d'un pays très riche européen.
Hein. Pas le Naon.
Elle
n'est pas manipulée. On a fait toutes les enquêtes
possibles,
imaginables.
Mais ce n'est pas une militante non plus écologiste de terrain.
Ce n'est pas une militante de terrain de la première heure. Mais elle est plutôt fraîche, elle est plutôt battante, et elle a envie de dire des choses. Et elle les dit de façon très claire,
tout
très précise.
Est-ce
que, et elle dit que ce n'est pas politique, et elle a raison.
Alors, si je peux encore poser une question dans ce studio, je vais la poser à Alexis Poulin, parce que c'est le plus sage d'entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'un petit peu d'anti-parlementarisme dans la démarche de Greta Thunberg, de dire finalement, vous voyez, les politiques ne font rien, il faut que nous agissions, passons par-dessus.
Faut pas dire que c'est au niveau mondial que les politiques ne font rien depuis cette alerte lancée en 72, depuis les rapports qui montrent que le réchauffement est un fait avéré et que
la maison brûle.
Mais la maison a complètement brûlé, et au lieu d'avoir un plan, on est en train de reconstruire notre maison, on est en train de regarder les cendres et de danser dessus, encore dans le cendre et confetti. Ça peut pas marcher, ce système-là, en fait. Donc, là où elle a tort, c'est de volontairement dépolitiser l'écologie, qui doit être, au contraire, au cœur de la politique et d'une révolution politique. C'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire que c'est
dans Libération, elle disait justement que c'était le système qui était en cause. Oui. Pas spécialement capitaliste. Donc, pour moi, je trouve ça très politique. Mais dès qu'on lui demande, c'est quoi ce système productiviste?
Si tout le monde parle en même temps, on vous entend pas. Je n'y
Oui, non, le problème de l'écologie aujourd'hui, c'est qu'elle est prise entre deux feux. C'est-à-dire, soit on a une écologie très pragmatique, très concrète, très quotidienne, où on dit voilà, il faut arrêter d'utiliser des sacs plastiques, faire pipi sous la douche, prendre du bio, du local.
Enlever sa cravate.
Changer sa vie. Et de l'autre, une écologie très incantatoire, qui est très idéaliste, très abstraite, où c'est des grandes idées. Mais entre les deux, il manque le moyen terme, qui est le terme politique, c'est-à-dire comment on change les choses de manière collective, à l'échelle d'un pays, quelles mesures on prend concrètes. Et j'ai l'impression qu'on oscille entre ces deux discours, celui du quotidien et celui de l'abstrait, sans arriver à penser les champs politiques.
Alors justement, les députés, à l'issue ou quelques heures plus tard de ce discours, ont pris une mesure. Les députés ont adopté le CETA, l'accord donc de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. On va venir au sujet de fond, mais d'abord politiquement... Le vote a été un peu juste, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui. 52 députés de La République En Marche sont abstenus et 9 ont même voté contre. Parmi eux, Jean-François Mbaye, droit dans ses bottes, écoutez-le.
Il n'y a aucune rébellion, il n'y a aucune fronde. Il y a des députés, vous savez, on est passé dans l'acte 2 du quinquennat, avec aujourd'hui des députés qui ont le désir et la volonté de faire avancer certains marqueurs qui peut-être manquaient ou étaient insuffisants sur le premier acte du quinquennat. Et moi, je considère que tout le monde est libre de se prononcer, en tout cas sur un enjeu comme ça, comme le CETA. Et donc, je n'y vois aucune fronde, j'y vois juste l'affirmation de sensibilité et de position qui doivent être entendues au sein de la majorité.
Paul Nahon, vous allez encore dire que j'ai une question bien futile, mais ce vote ne montre-t-il pas quand même que la majorité manque un tout petit peu de cohésion? C'est un peu embêtant.
J'ai pas l'impression. Chacun se détermine comme il veut à l'intérieur d'un parti politique.
Mais où est-ce que vous avez vu ça, Paul Nahon? On se détermine comme on veut à l'intérieur d'un parti politique.
C'est assez inédit pour l'URM.
S'ils avaient tous voté comme un seul homme, on aurait dit parti de Godillot.
Oui,
c'est pas vrai.
Ça, on l'aurait fait.
Là, c'est pas vrai. Ils ont chacun leur. Le vrai problème du CETA, c'est les farines animales. Et personne ne sait. Moi, j'ai vu. Enfin, j'ai commencé à compulser le traité. Il y a 1000 pages. 1000 pages qui sont. Mmh. Extrêmement difficile, extrêmement
aride. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a lu.
Mais personne ne l'a lu vraiment. Moi, j'ai lu quelques pages, j'ai vite arrêté. Parce que c'est extrêmement compliqué. Sur les farines animales. Est-ce que les Canadiens vont respecter? Le problème, c'est que Trudeau dit oui, on va respecter, mais il y a plein d'agriculteurs canadiens qui disent, attention, on fournit les vaches avec des farines animales. C'est ça qui est terrible.
Alexis Poulain, on a raison de considérer finalement les Canadiens comme des dangereux barbares qui alimentent leur bétail, qui donnent à manger à leurs enfants avec n'importe quoi. On a vraiment l'impression, si vous voulez, à entendre certains, qu'on passe un traité avec les Iroquois quand même. Hein.
Non, pas ça, mais on passe un traité toujours sur le moins-disant. C'est-à-dire qu'on a quand même des populations en Europe qui veulent aller vers une alimentation de qualité, qui en ont marre de cette agriculture intensive.
Mais tout le monde d'ailleurs, parce que les Canadiens aussi veulent aller vers une alimentation aussi. De qualité.
Mais ça va beaucoup moins vite. Et tout ce principe en fait de cet accord, illisible d'ailleurs, est fait par les technos et les lobbies, il est justement pour assurer aux lobbies des nouveaux marchés, simplement des nouveaux marchés. Et le problème de signer des traités comme ceci, c'est simplement qu'on n'a pas les moyens de contrôle. On va dire, vous savez, les vaches vont arriver, mais comment on va certifier, labelliser, s'assurer de la filière? On n'a aucun moyen de s'assurer en réalité. Donc on va simplement être sur la bonne foi de nos amis. Et c'est simplement pour que derrière, on puisse ouvrir des nouveaux marchés, qu'on continue dans ce système productiviste en disant il faut absolument sauver l'agriculture, donc il faut exporter. Et puis il faut aussi aller faire des autoroutes à l'autre bout du monde. Donc c'est intéressant d'ouvrir des marchés pour avoir ce droit-là. Mais derrière, il n'y a pas de logique en fait d'intérêt général.
Bon, je sens que tout le monde veut s'exprimer. Vous allez tous avoir la parole. Mais 20h20 sur France Info, c'est l'heure de l'info. C'est comme ça, c'est Jules Lekis.
Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Premier mot de François de Rugy après les conclusions de l'enquête de l'Assemblée nationale sur les dîners luxueux qu'il a donnés quand il en était le président. Il est l'invité du journal de France 2. Cette enquête conclut qu'il n'a pas enfreint directement ou indirectement les règles, mais elle l'épingle tout de même pour 3 dîners, des repas à caractère familial ou amical, notamment à Noël et pour la Saint-Valentin. 3 dîners avec un niveau de prestation manifestement excessif par rapport à ce qui doit être considéré comme raisonnable, précise ce rapport. Le Parlement adopte définitivement ce soir le projet de réforme de la fonction publique. Le Sénat, majorité de droite, a validé ce texte dans un ultime vote. Il prévoit notamment un recours accru aux contractuels, une plus grande mobilité des agents sur le territoire et un mécanisme de rupture conventionnelle. La circulation différenciée est mise en place dans la métropole lilloise pour demain. Impossible de rouler pour les véhicules au-dessus de la vignette critère numéro 3. Pareil à Lyon et Villeurbanne où elle est reconduite. À Paris et en proche banlieue, la mesure sera même un peu plus sévère. Seules les vignettes de 0 à 2 peuvent sortir du garage. Tout juste désigné pour le poste de Premier ministre en Grande-Bretagne, Boris Johnson réaffirme qu'il fera tout pour que le Brexit survienne le 31 octobre. Il réclame des concessions à Bruxelles pour une sortie plus douce, mais s'il ne les obtient pas, alors le Brexit sera dur, explique-t-il. Il a été largement élu par les militants à la tête du Parti conservateur aujourd'hui.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on débat évidemment du CETA dans les informés ce soir. Et dans ce studio, je cherche quelqu'un qui voudrait bien défendre cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Fatia Boujalat, sens que vous n'allez pas beaucoup m'aider sur ce coup-là.
Ah, pas du tout, alors là, je pourrais passer mon tour. Mais j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on vient de découvrir que le CETA était signé, allait être signé, que cette majorité l'a découvert. Il a été élaboré sous Hollande.
Donc
c'est très long parce que ce ne sont pas les politiques qui l'élaborent, mais des cabinets de conseil, des experts qui s'arrangent pour développer une vraie ingénierie pour que ce soit eux-mêmes qui puissent l'expliciter et s'assurer des marchés.
C'est peut-être aussi parce que c'est un petit peu compliqué, un accord de libre-échange.
Il y a un principe, les 3% de déficit qu'il ne faut pas dépasser, ça a été griffonné sur le coin d'une table, on m'a dit. Il y a un principe de droit fondamental, c'est que les citoyens doivent pouvoir comprendre les lois qui s'appliquent à eux. Si on ne peut pas comprendre, ça pose un problème. Et l'autre souci, c'est pas simplement les farines animales, alors que quand même on a connu la vache folle, nous, en Europe. C'est aussi l'arbitrage. C'est toujours cette perte de souveraineté fondamentale qui consiste à dire qu'on ne pourra plus s'adresser à la justice, mais n'importe quelle entreprise pourra faire appel à un tribunal arbitral privé, payé, intéressé aux marges.
On appelle ça la médiation, ça a très bien réussi à Bernard Tapie, vous voyez.
N'est-ce pas? Mais moins à la France, et moins au CDR.
Je voudrais ajouter deux choses, très rapidement, si vous le permettez, Olivier. Qu'est-ce qu'il y a à côté du Canada?
Les États-Unis.
Les États-Unis.
Et qu'est-ce qu'il y a à côté des États-Unis, du Mexique et le Mercosur?
Les États-Unis exportent un maximum de viande complètement avec des farines animales au Canada. Et c'est ces mêmes farines, cette même viande qu'on va recevoir ici. Deuxième chose, pardon, qu'est-ce qui a peaufiné aussi cet accord? Nicolas Hulot.
Oui, mais alors Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous avez suivi
Oui, j'ai suivi.
Mais il a décidé que maintenant qu'il était au gouvernement, il ne fallait plus voter. Eugénie Bastier, vous êtes bien silencieuse.
Mais moi je pense que... J'allais dire, les normes sanitaires, c'est quasiment, c'est même un détail, puisque même si la viande était produite de très très bonne qualité au Canada, je vois pas pourquoi on la ferait venir de l'autre bout du monde pour venir en Europe. Je pense que ces accords de libre-échange qui, comme ça, font traverser des marchandises d'un bout à l'autre de la planète sont d'un autre temps et qu'il faut maintenant réfléchir à des circuits courts. Et d'ailleurs, je rappelle que le gouvernement même qui se dit pour le CETA a fait voter une loi pour les circuits courts il y a moins de deux semaines à l'Assemblée nationale. Mais c'est d'une contradiction immense. C'est-à-dire qu'on peut pas d'un côté prôner les circuits courts et de l'autre voter le CETA. Ça veut dire que dans ce cas-là, on crée des citoyens à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dans les grandes métropoles qui vont pouvoir aller voir leurs AMAP, etc., qui vont pouvoir recourir aux circuits courts, et ceux qui
je vous entends, Eugénie Bastier du Figaro, vous dites finalement maintenant il faut plus de libre-échange, il faut plus commercer avec des gens qui habitent à plus de 200 km de chez nous.
Moi je crois libre-échange raisonnable.
Je suis tout seul.
Du libre-échange raisonnable, mais je pense que ces grands accords commerciaux internationaux qui sont dans une espèce de logique qui était celle de l'OMC qui date des années 90 et qui n'ont jamais d'ailleurs été changés depuis et qui sont on n'a jamais essayé de repenser le commerce global par rapport aux nouveaux enjeux qui sont des enjeux environnementaux, des enjeux sanitaires, des enjeux de sociaux aussi, puisque ça crée du dumping social évidemment. On n'a pas essayé de repenser tout ça et je pense qu'en effet ils sont dépassés. D'ailleurs on le voit, le protectionnisme est à la mode et un protectionnisme intelligent. Et je pense qu'aujourd'hui l'urgence serait de faire un protectionnisme intelligent à l'échelle de l'Europe, évidemment de commercer entre nous, entre Européens, mais je ne vois plus l'intérêt de ces accords internationaux qui, aujourd'hui...
On a fêté hier le 75e anniversaire des accords de Bretton Woods, qui donnait le coup
d'envoi
de la mondialisation.
Mais parce qu'on était sur une pente de reconstruction, on avait des choses à faire. Aujourd'hui, on est simplement allé à chercher la croissance avec les dents, en disant qu'il faut absolument qu'on trouve des moyens de multiplier les échanges, de continuer dans un système productiviste. Et en parallèle, le monde agricole en France va très mal. Vous avez des suicides d'agriculteurs toutes les semaines. Vous avez de jeunes agriculteurs qui sortent de l'école, qui ont des projets qui ne peuvent pas s'installer parce que les banques ne leur prêtent pas d'argent pour monter leurs projets. Et on est en train de dire qu'on va retrouver un système féodal.
Notre champagne, on est content de le revendre quand même aux Canadiens.
Mais on le vend sans les accords. Les bouteilles partent de toute façon au bout du monde. Le problème du libre-échange, déjà, c'est le terme libre-échange. C'est deux termes positifs. On est très content avec ça. La réalité, c'est quoi? C'est des chevaux de Troie systématiquement pour casser des économies locales, pour casser des écosystèmes. On a fait ça en Afrique, on fait ça partout. Et c'est ce qui va impacter encore davantage notre agriculture française. En faisant croire que certains agriculteurs, oui, vont être gagnants, mais ce seront les grands producteurs. Mais le petit agriculteur qui voudra faire de la qualité, il peut déjà mettre la clé sous la porte. Et d'ailleurs, la FNSEA est même montée au créneau en disant que c'était un accord bidon, qu'il fallait pas le signer. Même la FNSEA, donc on parle pas de
l'agriculture canadien. Vous entendez? Vive le protectionisme!
Non,
agriculteurs... Former des barrières, des frontières.
Mais les frontières, c'est pas les frontières. C'est nécessaire.
Les agriculteurs canadiens eux-mêmes disent, attention, notre viande va être trafiquée. Celle qu'on vous envoie va être trafiquée. C'est quand même incroyable.
Fatia Boudjalat.
Moi, je suis souverainiste, donc les frontières ne me posent aucun problème psychologique, ça me gêne pas. Il y a un système d'écluse, il faut toujours qu'il y ait un système d'écluse entre États. Si on accueille, parce que il y a la liberté de commerce, il y a la liberté d'entreprendre, et avec nos produits de luxe, on en tire profit. Par contre, c'est la première fois cette année qu'on a dû importer des denrées agricoles. Donc on a un modèle qui est à bout de souffle en France, parce que justement, on n'arrive pas à concurrencer les industries agroalimentaires qui exploitent, qui poussent à la baisse, voilà, et on va chercher, on va créer de nouveaux marchés, en espérant que la viande viande sera moins chère.
Mais vous pensez
pourquoi
que
les gens vont acheter de la viande canadienne?
Un système à la nord-coréenne, on se ferme de tout.
Mais ça non, c'est un autre extrême. Mais après tout, ce que Olivier Delagarde développe, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. Soit on s'isole, soit on s'ouvre et on se déshabille.
J'essaye de faire vivre ce débat.
Il faut sortir de l'alternative. C'est un piège.
Il est important de rappeler ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce que moi j'ai trouvé ça en effet
extrêmement
choquant. Absolument scandaleux. Il a dit, voilà, bon, il y a des gens qui sont contre le CETA, mais quoi, ils veulent qu'on ferme les frontières. Enfin, comme s'il y avait une alternative entre le CETA qui est une accélération des flux et notre système actuel qui est déjà très ouvert. Je rappelle bien que voilà, l'Union Européenne, on est une des zones commerciales les plus ouvertes du monde. Comme si l'alternative c'était ça ou ça. C'est insupportable. C'est comme les gens qui, quand on dit qu'il y a un problème avec l'immigration, avec les flux migratoires, disent, ah ben vous voulez qu'on ferme complètement les frontières. Ben non, il y a une juste mesure, il y a un juste milieu. Et d'ailleurs, Greta Thunberg disait elle-même tout à l'heure, il n'y a pas de juste milieu quand on parle d'écologie. Moi, je crois que oui, il y a un juste milieu en tout, y compris dans le protectionnisme.
C'est vrai, il s'agit de nourriture, voilà. C'est quand même. Et en plus, l'Europe a parfaitement protégé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années les expédients et la nourriture en Europe. Et là, on va tout dérégler.
C'est pire
incroyable.
Que ça. Enfin, c'est Chirac qui était le dernier président à parler de l'arme verte en disant que c'était extrêmement important d'être autosuffisant en termes justement de production agricole. Et c'est la première année effectivement qu'on importe davantage. C'est grave. Bon, parce que derrière, ça veut dire qu'on a déjà très peu de souveraineté en Europe. Alors là, on en aura encore moins.
En tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour défendre un tout petit peu ce CETA. J'ai pas l'impression d'y être totalement parvenu.
Pas
mais c'est
tout.
Pas grave. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter. On va laisser passer l'info. On va écouter la météo ensemble. On va boire un verre d'eau. Et puis on se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie des informés.
France Info Météo avec le CIC. Banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Sébastien Léas.
Demain, les températures maximales baisseront légèrement sur la façade ouest, mais elles seront en hausse sur l'est. L'après-midi, il fera 36 à 40 degrés en général, avec des pointes encore jusqu'à 42 degrés. Chaleur plus modérée sur les plages de la Méditerranée et du Pays Basque au Boulonnais jusqu'en Normandie et en Bretagne avec 31 à 36 degrés. Ce soir, des orages localement forts accompagnés parfois de grêle et de fortes rafales de vent sont attendues sur le Pays Basque, les Landes, mais aussi la basse Normandie jusqu'au nord des Pays de la Loire. De nouvelles averses localement orageuses se développeront demain après-midi sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et de l'Auvergne à la Bourgogne. Ailleurs, le temps sera plus calme et souvent ensoleillé. Sur la moitié ouest, le soleil du matin sera tout de même un peu voilé et de la grisaille retardera l'arrivée du ciel bleu sur le Finistère et le sud de l'Aquitaine.
Prévision signée Sébastien Léas, vous écoutez France Info, 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Soisigbourg pour l'info.
Je me présente devant vous en homme blanchi, François de Rugy, invité aux 20h de France de tout à l'heure. L'ex numéro 2 du gouvernement, dédouané par les enquêtes du gouvernement et de l'Assemblée sur les travaux entrepris dans son logement de fonction et ses dîners fastueux, même si 3 d'entre eux ont été épinglés pour dépenses excessives. Je les réglerai, a confirmé l'ancien ministre de la Transition écologique, qui, je cite, n'a jamais douté qu'il réussirait à prouver son honnêteté. Courte majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le CETA, finalement ratifié à 266 voix contre 213 cet après-midi. Le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada ne fait pas l'unanimité et ce, Laurent Sénéchal, jusque dans les rangs de la majorité.
Une part importante du groupe La République En Marche a choisi de ne pas ratifier le CETA. 52 députés de la majorité se sont abstenus, 9 ont même voté contre, comme par exemple Éric Alauzet, député du Doubs, issu des rangs écologistes. Il explique être fidèle à ses convictions et surtout au discours qu'il a toujours tenu à ses électeurs. 9 contre, 52 abstentions, c'est inédit depuis le début du quinquennat. Jusqu'ici, la majorité se contentait d'approuver en bloc les textes présentés par le gouvernement. Le seul qui avait donné lieu à un semblant d'opposition, c'était le projet de loi anti-casseur avec 50 abstentions. Gilles Legendre, qui vient d'être reconduit comme président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, doit donc faire face à ce qui ressemble de plus en plus à une fronde.
Et sur France Info, le député En Marche, Jean-François Mbaye, qui a voté contre le texte, a réagi. Je ne dis pas non à Emmanuel Macron, mais cette ratification n'était pas urgente, a-t-il déclaré. Deliveroo condamné pour fraude à la sécurité sociale en Espagne. La plateforme de livraison de repas a fait passer des centaines de livreurs comme indépendants, alors qu'ils auraient dû être déclaré comme salarié. En tout, 1,2 million de cotisations n'ont jamais été payées. 4 jeunes agressés à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi dans un appartement qu'ils avaient loué sur Airbnb pour la soirée. À 3h du matin, 4 personnes ont frappé à la porte et les ont violemment agressés avec une arme de poing. Ils ont également violé une mineure de 17 ans. La canicule déferle sur la France. 80 départements placés en alerte orange. Un record, autre record de chaleur celui-là. 41,2 degrés atteints matin à Bordeaux cet après-midi. L'épisode de pollution à l'ozone, lui, se poursuit. Circulation différenciée reconduite à Paris et Lyon demain. Elle sera aussi déclenchée dans la métropole lilloise. Une cérémonie nationale pour les 3 militaires morts accidentellement en Guyane la semaine dernière. Elle sera organisée à Besançon demain et présidée par la ministre des Armées, Florence Parly. Les 3 soldats sont décédés pendant une opération contre l'orpaillage illégal. Londres, Paris et Berlin, main dans la main pour sécuriser le golfe arabo-persique après la saisie d'un pétrolier britannique par l'Iran vendredi dernier. Une mission de suivi et d'observation de la sécurité maritime devrait être mise en place en pleine montée des tensions entre Téhéran et Washington. 20h33 sur France Info, on retrouve tout de suite Olivier Delagarde avec ses informés pour la suite des informés.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie d'Eugénie Bastier, du Figaro, de Fatia Boujalat, enseignante, essayiste, militante féministe, Paul Nahon, journaliste membre de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, et puis Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication Du Monde Moderne. Alors, on devait parler tout de suite là de le Royaume-Uni, de l'arrivée de Boris Johnson, mais on bouleverse un petit peu notre programme parce que François de Rugy s'est exprimé il y a quelques minutes. Il était l'invité du journal de France 2, l'ancien ministre de l'Environnement qui a démissionné la semaine dernière, à la suite des révélations de Mediapart, n'a visiblement pas dit son dernier mot. Alors je vous propose d'abord de l'écouter.
Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Et Dieu sait s'il y en a eu des accusations. Il y a eu des centaines d'articles qui m'accusaient ou qui relayaient des accusations. Certaines étaient fausses, on le savait depuis le début. Elles ont continué à être relayées. Les articles sont toujours en ligne d'ailleurs. Je me présente devant vous et devant les Français qui nous regardent en honnête homme. Je vais vous dire, je n'ai jamais douté un instant que je réussirais à prouver mon honnêteté, puisque c'est à moi de prouver mon honnêteté.
Alors, il faut peut-être expliquer un tout petit peu pourquoi François de Rugy se dit honnête ce soir. Selon le rapport du secrétaire général de l'Assemblée nationale, François de Rugy n'a pas enfreint directement ou indirectement les règles de l'Assemblée nationale, sauf pour 3 dîners organisés à l'hôtel de Lasset. Mediapart ont dénoncé 12, alors 3 c'est moins que 12, mais c'est quand même pas rien. François de Rugy a par ailleurs affirmé avoir rapidement remboursé, dès 2014 et 2015, avec son compte personnel, les cotisations d'élus versées initialement en utilisant ses frais de mandat de député. Vous le trouvez blanchi, Paul Nahon, ce soir, François de Rugy ?
Moi je suis très mal à l'aise avec cette histoire depuis le début.
Dites-nous
j'ai l'impression pourquoi. Qu'il y a une sorte de chasse à l'homme qui a été engagée par tous les médias, personne n'a jamais rien vérifié, et surtout eu égard au rapport qui a été fait par l'Assemblée nationale, où il n'y a pas grand-chose à dire. Je me rappelle d'une photo, alors c'est vrai qu'il y a eu les homards,
et il y a voilà. aussi une photo... Omar m'a démissionné, voilà.
Oui, il y a aussi une photo du sèche-cheveux avec des feuilles en or. Il n'en a rien été. Il y a un sèche-cheveux normal qui a été laissé là-bas. Il y a des meubles Ikea, il y a aussi des meubles achetés à la Redoute. Est-ce que ça fait aussi, voilà, c'est une victime, voilà, j'arrive pas à comprendre. Tout le monde est parti sur ces affaires-là, et je trouve ça absolument incroyable.
Eugénie Bastier.
Oui, moi je pense que, je l'ai dit aussi depuis le début, malgré je n'ai aucune sympathie pour François de Rugy, mais je
vous
pense
avez qu'il antipathie,
pas...
voilà.
Je pense qu'il n'aurait pas dû démissionner, et d'ailleurs, s'il était si certain d'être blanchi, il n'aurait pas dû démissionner tout simplement. Et je pense que cette affaire est symptomatique d'une dérive contemporaine où le temps médiatique l'emporte sur le temps politique et a fortiori sur le temps judiciaire. Et le minimum aurait été que, avant de s'emballer, on ait au moins pu attendre les résultats de l'enquête de l'Assemblée nationale, puis et du gouvernement. Et je trouve que c'est absolument délirant ce qui s'est passé. C'était démission. Et je pense que François de Rugy, encore une fois, a un bilan très très contrasté au ministère de l'écologie. Je ne vais pas du tout défendre son bilan. Je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il aurait fallu le critiquer que sur ces pseudo-affaires de dîner. Mais je pense que ça en dit long sur cette espèce de culte de la transparence tout azimut, et qui a d'ailleurs qui crée d'ailleurs la défiance qu'elle prétend résoudre, c'est-à-dire que là on a l'impression que tous les politiques sont pourris, que elle crée cette espèce de climat de défiance absolue envers les hommes politiques, et je pense que c'est pas du tout la solution à la crise de défiance qu'il y a entre le peuple et les élites, bien au contraire, et je pense que cette histoire en est l'illustration.
Donc c'est plutôt une faute journalistique d'avoir sorti ces affaires. C'est intéressant de vous entendre tous les deux, vous êtes journaliste. Paul Nahon, c'est
je
quand même
une...
C'est quand
une...
même celui qui a créé Envoyé spécial, qui lance un peu les reportages.
Pensez-vous de ce que Lise Buisson a fait?
Ah non, bah alors ça c'est une autre question, ça. Et vous, Fatia Bouzala, qu'est-ce que vous pensez de François
Drugy ? Je refuse de voir un président de l'Assemblée nationale, je refuse de voir quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole lors d'une primaire comme une victime. Absolument pas.
Alors attendez, s'il était victime, pas tout, là,
c'est une victime de son hubris. Non, je suis désolée. C'est une victime de son hubris. C'est lui qui a fait, qui a utilisé comme argument la transparence. C'est lui qui a prétendu qu'il arriverait à réformer l'Assemblée nationale, à réduire les frais. C'est lui qui a incité les députés à être transparents. Ben, il est puni par là où il a péché. Je suis désolée. Et moi, ce que je reprocherais le plus, c'est même pas ses dépenses somptuaires, alors qu'il y a quand même 3 repas fautifs. Donc le côté de l'absurde complètement.
Il a dit qu'il allait les rembourser.
Moi j'attends des explications sur pourquoi il allait à Nantes en train alors est-ce que son chauffeur venait de Paris pour l'attendre et le prendre à la gare de train. C'est-à-dire pourquoi il était dans l'affichage de dire je prends des transports collectifs. Oui, et il ne l'a pas nié. Ça c'est inacceptable.
Non, c'est les frais de mandat aussi qui ont été terribles pour lui, à savoir qu'il a payé sur sa cagnotte.
L'optimisation fiscale.
L'optimisation, ça c'est.
Parce qu'on est en train de dire, c'est pas légal. Mais
ça vaut pas cette chasse à l'homme. Ça vaut pas cette chasse à l'homme.
Quand on a eu Bérégovoy en France, on parle pas de chasse à l'homme.
Alexis Poulain.
Moi, je pense qu'on peut pas parler d'assassinat de chasse à l'homme. On a entendu ces mots-là pour le cas de Drugy. Non, c'est un règlement de compte. C'est le homard qui cache le banc de crabe. Évidemment, quelqu'un a balancé à Mediapart. Mediapart a pas fait grand-chose. Ils ont eu les documents. Ils ont passé quelques coups de fil, ils ont dit bon, bah voilà, on publie, très bien. Mais derrière cette affaire, ça montre quoi ? Ça montre simplement qu'il y a un besoin de moralisation, de dire pourquoi les élus français. Non, mais je suis pas un défenseur de la morale, loin de là. Mais
comment ça, vous n'êtes pas un défenseur de la morale ?
Parce que la morale en politique, c'est une très mauvaise idée souvent. Parce que justement, on l'affiche et on parle de très loin.
On invite ces gens à vous informer.
Mais ce principe-là de vivre grand train et de passer son temps à dire aux Français qu'il faut serrer la ceinture et que les temps sont durs, mais c'est intenable, c'est fini. Et quand Macron, qui est président, promet un nouveau monde, alors on doit avoir des pratiques d'un nouveau monde. Or là, c'est les pratiques de l'ancien monde, x10. Donc c'est évidemment
Macron
inacceptable.
Macron n'est pas responsable de Drugy.
Mais c'était le numéro 2 du gouvernement.
Non, on dit grand train, mais il a montré les rapports de l'Assemblée.
Emmanuel Macron fait la même chose à Bercy. Il a fait la même chose avec les frais de représentation. Il a construit sa carrière politique grâce à l'argent public en faisant des dîners à Bercy. Non, il y a grand train quand on fait son réseau, avec de l'argent public.
Où voulez qu'il habite ?
C'est lié à la 5e République. Non, mais ça, c'est lié à la 5e République. Personne ne le conteste. Mais qui vient de dire que le modèle de la tablette Toblerone qu'une ministre suédoise avait été obligée de démissionner parce qu'elle l'avait acheté avec sa carte.
Elle avait dépensé
5 000 euros. Voilà, j'allais dire, elle avait dépensé 5 000 euros.
Ça part dans tous les sens des informés et ça tombe bien.
Ça va dans le sens que
parce qu'il est l'heure des infos. Vous allez donc pouvoir refaire baisser un petit peu attention. Et puis, on va reprendre immédiatement après Jules Dequisse.
Invité du 20h de France 2 ce soir, l'ex-ministre de la Transition écologique François Drugy s'estime blanchi par l'enquête du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Leurs conclusions ont été remises aujourd'hui. La première, le dédouane dans l'affaire des dîners fastueux qu'il a donné quand il présidait le Palais Bourbon. La seconde est moins affirmative. Elle relève notamment que 3 des repas incriminés étaient d'ordre privé et non public et qu'ils ont engagé des frais manifestement excessifs. Le transport routier des animaux est interdit tant que la canicule durera entre 13h et 18h. Décision du ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est le cas dans les départements placés en vigilance orange par Météo France. On en compte 80 ce soir. Tout le territoire, la Corse, la Bretagne et les bords de la Méditerranée mis à part. Il y a des alertes aux orages également dans la Manche, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe et le Calvados. Le trafic SNCF a dû être interrompu tout à l'heure entre Bayonne et Bordeaux. En cause, plusieurs incendies en bord des voies, notamment un feu de forêt à hauteur de la commune du Sanguinet. 20 hectares seulement sont partis en fumée grâce à l'intervention rapide de 3 avions bombardiers d'eau. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne annoncent travailler de concert à une mission pour sécuriser le détroit maritime d'Ormuz. C'est le passage obligé des pétroliers qui veulent quitter le golfe Persique. Une action menée après des semaines d'incidents sur des navires dans une zone déstabilisée par la crise sur l'accord du nucléaire iranien. Téhéran retient notamment un bateau britannique. Après l'or des épéistes français hier, voilà l'argent pour leurs homologues du fleuret. Les Bleus s'inclinent en finale assez largement contre les Américains. 45 touches à 32 au championnat du monde à Budapest.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Je me présente en homme blanchi de toute accusation. Propos ce soir de François Drugy dans l'affaire évidemment des homards, l'affaire de ces repas payés par le contribuable. Tenez, c'est l'heure de la question à la noix et c'est sur vous que ça tombe, Jenny Bastier. Faut-il réintégrer d'urgence François Drugy au gouvernement ?
Je sais pas, ça me paraît un peu compliqué de revenir en arrière, parce que voilà, on a intronisé Elisabeth Borne. Le gouvernement, à mon avis, l'erreur première, c'était d'avoir démissionné trop vite. Maintenant, je sais pas si c'est réparable, et je pense que ça va être très compliqué, parce que on peut pas comme ça, du jour au lendemain, bousculer un ministère, remettre quelqu'un, etc., sachant que Monsieur Drugin n'avait pas l'air non plus irremplaçable dans sa fonction, c'était pas Nicolas Hulot.
Ah, ça fait beaucoup rire tout le monde.
Mais je pense qu'en effet, cette affaire est regrettable et que François Drugy, en tout cas, a toute sa place au Parlement et a toute sa place dans la vie politique française, en espérant qu'à l'avenir, il fasse moins la leçon aux autres, hein, puisque, comme le dit Molière, il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans la correction qu'aux autres on veut faire. Je crois que c'est la leçon de l'affaire Drugy.
Bon, eh ben c'est toujours bien de citer Molière. Fatia Boudjalat, la Macronie a-t-elle encore besoin d'un François de Rugy pour continuer à faire des vers?
Si elle veut détruire le mouvement politique écologiste Europe Écologie Les Verts, comme elle l'a fait avec la gauche et comme elle essaye de le faire avec la droite, pourquoi pas? Parce que tout n'est que stratégie. Voilà.
S'ils veulent un rapprochement. Aujourd'hui, François de Rugy n'est pas un peu démonétisé
Mais il n'a jamais été monétisé. C'est de la pure inflation, François de Rugy. C'est vraiment un pur déséquilibre économique. Je pense que soit on annonce un remaniement à la fin de l'année pour lancer l'acte 2 du quinquennat. Donc peut-être que là, les cartes vont être rebattues.
Si vous voulez, ça, c'est j'ai vu l'article du Parisien. Ça mange
peut-être
pas de pain.
Peut-être que ça va être rebattu. Je pense qu'ils ont bien noté Yannick Jadot, qui est très libéral compatible, qui pourrait peut-être être séduit. Donc,
vous pensez que Yannick Jadot va rentrer au gouvernement?
Je pense qu'il ne...
Là, c'est la grosse cote. Là, on va vous réinviter souvent.
Je pense qu'il est de droite, qu'il est libéral et que donc il a toute sa place aux côtés de Macron.
Paul... Bon, eh bien, écoutez, en tout cas... C'est...
Yannick, non, si tu m'entends.
Paul Nahon.
Non, Jadot, à mon avis, a déjà répondu.
Mais c'est pas sur Jadot, là. Les délires de Fatia Boudjalat, on va lui laisser. Est-ce que.
Ce sont pas des délires, ce sont des prophéties.
Des prophéties. Non, réintégrer de Rugy. Non, il n'en est pas question. Pas une demi-seconde. Il a été forcé à démissionner.
Vous croyez? Il paraît qu'en fait, il a mis un peu le gouvernement dans cet accompli.
Non, il a été forcé à démissionner. En disant, on ne peut pas continuer comme ça. Alexis évidemment. C'était une autre affaire Benalla.
Je crois qu'Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt à le lâcher parce que lui-même a des petits soucis avec ses dîners à Bercy. Je pense que ça a même embêté Emmanuel Macron que François de Rugy démissionne.
C'est ce que j'ai voulu dire en parlant du homard qui cache le panier de crêpes. C'est-à-dire que c'est des pratiques qui sont courantes. Emmanuel Macron, à Bercy, il construit sa carrière, son profil de présidentiable en faisant 1-2 dîners par soir avec l'argent de ses frais de représentation du ministère. Et personne ne pose question. Il invite des acteurs, des comédiens, des patrons de boîte, tout et n'importe quoi. Simplement pour rencontrer, créer son réseau. C'est comme ça que ça marche. Donc on a des résidents de la République qui vivent avec l'argent public pour leur intérêt privé. Ça pose problème. Parce que derrière, on parle peu... Bah si, c'est sa carrière. C'est une carrière personnelle.
C'est une carrière personnelle. C'est pas ministre.
Il veut être président de la République.
Oui.
C'est pas nous de le financer.
Ça, c'était le débat des informés d'hier. Mais ce soir, le débat, c'est François de Rugy, il vaut encore quelque chose en politique? Parce que Jenny Bastien nous dit, il va encore vivre. C'est un homme politique important.
La politique, ça prend du temps.
Mais plus qu'elle a dit, exactement. Mais c'était ça, un peu, en substance.
Qu'il avait sa place au Parlement.
Sa place dans la vie politique française. Voilà.
Mais il peut être député, effectivement, et une carrière politique, c'est long. Et on en a connu qui sont revenus d'outre-tombe. Donc c'est tout à fait possible de durer longtemps et de retourner sa veste encore et encore et encore tant qu'elle n'est pas complètement usée. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué à court terme de voir de Rugy revenir dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas comment et quel rôle il pourrait avoir. Ça va être un peu compliqué pour lui.
Bon, en tout cas, on
ministre
a écouté,
des Finances.
Écoutez vos prédictions ou de la pêche, évidemment. L'autre grosse actualité du jour, pour quand même parler aussi de ce qui se passe outre-Manche, puisque sans surprise, Boris Johnson a été élu à la tête du Parti conservateur, ce qui fera de lui, dès demain, le nouveau Premier ministre en remplacement de Theresa May. Alors la grande question, c'est à quoi faut-il s'attendre? Vous allez avoir 30 secondes pour réfléchir, parce qu'on va d'abord l'écouter.
À tous ceux qui doutent, je leur dis, nous allons mettre en œuvre le Brexit le 31 octobre. Nous allons profiter de toutes les opportunités qui vont naître de ce nouvel esprit volontariste. Nous allons de nouveau croire en nous-mêmes et dans ce que l'on peut accomplir. Et tel un géant endormi, nous allons nous réveiller et rassembler les sceptiques. Avec une meilleure éducation, de meilleures infrastructures, plus de police et de la fibre haut débit dans toutes les maisons, nous allons unifier ce merveilleux pays. La campagne est terminée, le travail commence.
Is over and the work
Voilà, Boris Johnson cet après-midi. Alors, l'homme est fantasque, hein. J'ai même lu, il est même parfois présenté comme un dingue. Qu'est-ce que vous en pensez, Fatia Boutalat ?
Alors déjà, il faudrait commencer par son patronyme complet, ça pourrait situer les choses. Alexander Boris von de Pfeffel Johnson, voilà. Ah oui. Donc c'est quelqu'un qui joue le bouffon alors qu'en fait il appartient à la haute société anglaise.
Parce que vous faites de la stigmatisation à partir des noms de famille, eh ben c'est
intéressant. Ah non, je fais du sainte-beuvisme, j'éclaire les actes par rapport au nom. Il joue le bouffon alors qu'en fait il a fait les plus belles écoles, les meilleures écoles anglaises, et il a trouvé ce rôle-là qui lui permet de mentir, de justifier ses volte-face. Et je tiens à dire une chose, c'est qu'il a été élu président du Parti conservateur, ce qui lui permet d'être Premier ministre, mais je ne suis pas sûre qu'il aurait été élu face à de vraies élections. Donc là, s'il avait un peu de courage, il devrait dissoudre le Parlement et affronter de vraies élections. Il a été élu par ses pairs, sur un profil très conservateur et fantasque, parce que les gens ne croient plus que les hommes politiques puissent avoir une vraie action, donc ils veulent s'amuser.
Alexis Boulin.
Oui, c'est très juste. C'est un clown, hein, Boris Johnson. Il est dit comme ça. C'est un menteur. Il a menti pendant le Brexit. Il a menti lorsqu'il était maire de Londres. Enfin, il est monté au sommet par
tous
le mensonge.
Tous les hommes politiques qui mentent un jour.
Non. Il y a mensonge. C'est-à-dire que c'est vraiment l'irresponsabilité absolue. Il a fait toute sa carrière de journaliste sur l'euroscepticisme en étant à Bruxelles, en tapant sur la façon dont Bruxelles se faisait. Et il avait déjà cette idée-là. Il a démissionné deux fois. Enfin, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas vraiment avoir confiance. Là, c'est un vol complètement un vol démocratique. C'est-à-dire que vous avez un parti minoritaire qui est le parti des conservateurs, qui fait une élection interne avec très peu de gens qui votent pour avoir Boris Johnson à la fin comme Premier ministre. Les Anglais qui regardent ça, les Britanniques qui regardent ça, sont atterrés. C'est-à-dire que derrière, ils disent le Brexit, d'accord, mais pourquoi ça se fait comme ça ?
Je pense que le vrai vol démocratique, c'est que deux ans et demi après le Brexit, il n'a toujours pas eu lieu. C'est ça le vol démocratique.
Ah, ça, c'est l'autre vol démocratique.
Non, mais le vol démocratique, le Brexit n'a toujours pas été mis en œuvre, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec Boris Johnson, c'est que les dirigeants britanniques ont été incapables de mettre en œuvre ce que le peuple avait voté.
Mais Boris Johnson ne sera pas plus capable qu'un autre.
Peut-être. Moi, l'Union européenne
a une responsabilité.
Peut-être
que Boris Johnson ne sera capable, parce que justement, c'est quelqu'un de fantasque qui prend des décisions un peu folles, qui n'a pas une énorme. Comme il le dit très souvent, qui ne soucie pas des détails. C'est peut-être ça qu'il faut pour enfin mettre en œuvre ce Brexit, parce qu'on a vu qu'avec Theresa May, qui était une personnalité admirable, qui essayait de négocier, qui essayait vraiment de rentrer dans les détails du Brexit, ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'il faut quelqu'un qui coupe le nœud gordien une bonne fois pour toutes. Et
donc
peut-être
pour vous, c'est pas une mauvaise nouvelle.
Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour l'Union européenne, parce qu'on va peut-être pouvoir enfin mettre en œuvre ce Brexit qui traîne en longueur depuis presque 3 ans maintenant, enfin 2 ans et demi. Et voilà, il y en a marre. Si le Parti conservateur a été mis en minorité aux élections, c'est parce que justement il y a eu le Brexit Party qui est arrivé en tête au Royaume-Uni, il faut le rappeler, aux élections européennes, et que le parti du Remain, petit parti qui venait de se créer pour rassembler les gens qui étaient contre le Brexit, a fait un bide complet. Donc il faut rappeler ça, il faut rappeler que les électeurs britanniques ont rappelé leur souhait. Enfin, une partie, en tout cas, de ceux qui avaient voté le Brexit, ont tiré la sonnette d'alarme en rappelant au Parti conservateur, nous voulons le Brexit.
Alors Paul Dahon, on brûle de vous entendre sur le sujet, mais il est 20h50, donc c'est l'heure de l'info avec Jules de Kiss.
François de Rugy s'estime lavé de tout soupçon après les 2 enquêtes sur ses dîners luxueux donnés du temps où il était président de l'Assemblée nationale. L'ex-ministre de la Transition écologique était l'invité du Journal de France de ce soir. Un premier rapport du gouvernement le dédouane complètement. Un autre à l'Assemblée estime qu'il n'a pas enfreint de règles, directement ou indirectement. Il relève tout de même que 3 des dîners mis en cause étaient à caractère amical ou familial. Ces frais n'auraient pas dû être imputés sur les frais de réception du président, conclut le rapport. 41,2 degrés à Bordeaux cet après-midi. La ville bat son record absolu de chaleur. C'est aussi le cas à Angers, à Rennes ou à Blois, avec la barre des 40 degrés à chaque fois franchie. Il n'y a jamais eu autant de départements français placés en vigilance orange par Météo France. 81 le même jour. Tout le pays est concerné par ces fortes chaleurs, sauf la Bretagne, le pourtour méditerranéen et la Corse. L'opposition russe promet de continuer à manifester. Elle s'est vue refuser plusieurs candidatures pour les prochaines élections locales en septembre, notamment à Moscou, la capitale. Les autorités avancent des irrégularités. 20 000 personnes se sont déjà réunies le week-end dernier pour le dénoncer. L'Australien Caleb Ewan s'impose au sprint à Nîmes pour la 16e étape du Tour de France. Pas de chamboulement aux premières places du classement général, si ce n'est l'abandon de Jakob Fuglsang, le coureur danois de l'équipe Astana. Il occupait la 9e place. C'était l'un des candidats au podium cette année.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et c'est intéressant ce soir dans Les Informés parce qu'on débat de la personnalité du futur, ce sera demain, hein, Premier ministre britannique Boris Johnson. À l'instant, Fatia Boudjalat et Alexis Poulain nous le décrivaient comme un bouffon, menteur. Et puis Jenny Bastien nous disait que non, c'était peut-être une chance pour le Royaume-Uni, peut-être une chance pour l'Europe. Reste à connaître la position de Paul Nahon que tout le monde attend.
Non, mais je crois qu'il est trop tôt pour juger.
Ah bah, merci beaucoup, Paul Nahon. Ça valait vraiment la peine de faire un teasing d'enfer.
Beaucoup trop tôt pour juger. Sa personnalité est très complexe. Il a plutôt bien réussi quand il était maire de Londres. Il s'était entouré d'une très belle équipe, hein, de professionnels. Là, maintenant, on va voir ce qu'il... Il a dit Brexit dur, j'y vais. Et je ne donnerai pas les 40 milliards qu'on doit à l'Europe.
31 octobre.
Voilà, 31 octobre, j'y vais. Absolument.
Bon. Il a un très mauvais
Fatia
bilan Boudjalat. Comme maire. Au contraire, il a lancé des travaux pharaoniques.
Fatia Boudjalat, pardon, vous n'avez pas envie de quand même lui accepter le bénéfice du doute, de dire, bah attendez, allons, payons pour voir, après tout.
Le problème, c'est qu'il a trois voix. Il a trois voix de majorité. C'est ça le problème aussi. Il peut être débarqué très vite, hein.
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis souverainiste, donc je vais respecter l'histoire anglaise. Oui, parce que ce mot, c'est marrant. Il effraie beaucoup de gens. Donc,
si on était effrayés par les mots, on ne ferait pas les informer. Hein.
Je n'ai pas à juger ce que font les Anglais. Tout ce que je dis, c'est que c'est quelqu'un qui n'a fait que manœuvrer, quitte à tirer dans le dos de ses camarades de parti, quitte à nuire objectivement à son pays. C'est pas un grand homme d'État, c'est quelqu'un qui a lâché l'ambassadeur qui avait eu des mots assez durs mais réalistes sur Trump. Certains disent d'ailleurs que c'est le Trump anglais, alors qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un... Quand il était ministre des Affaires étrangères, il s'était moqué ouvertement de Trump, le vexant. Donc c'est encore quelqu'un qui change sans cesse son fusil d'épaule. Moi, je souhaite le meilleur à l'Angleterre, pas de souci. Ça ne me gêne pas qu'ils partent de l'Union européenne. Ils ont toujours été le 51e État des États-Unis. Mais, encore une fois, j'espère pour les Anglais qu'ils vont avoir quelqu'un qui sera enfin satisfait de la place où il est et qu'il arrêtera son ambition pour se mettre au service de l'intérêt des Anglais.
Alexis Poulain.
Mais c'est assez juste. On a cité Molière tout à l'heure. On peut citer Shakespeare. Hein.
Allez-y. On est prêt.
He who lives by the sword, die by the sword. Celui qui vit par l'épée, meurt par l'épée.
Périra par l'épée.
Je pense bien que ça finira comme ça pour Boris Johnson. Il peut être très peu de temps Premier ministre si le parti justement décide de tout faire pour le mettre dehors. Donc ça il va avoir à déjà gérer une majorité difficile. Et puis ce deal du Brexit, même s'il n'y a pas de deal, c'est impossible à faire, en fait. C'est joli de le dire en disant le 30 octobre, on va le faire, mais ne pas rendre 40 milliards à l'Europe, c'est impossible.
C'est
une déclaration de guerre. Soit il appelle une guerre avec l'Europe, très bien, mais ça s'appelle pas un Brexit, ça s'appelle une guerre avec l'Europe. Je vois pas comment, au-delà des postures,
on bombardera de viande canadienne pour les battre dans cette guerre.
Récupérer quelque chose.
Mais voilà. On parle de Brexit dur, mais est-ce que dans le fond, et c'est ce que disent tous les spécialistes que moi j'écoute, vous savez, benoîtement, hein, je suis un pauvre journaliste de France Info, ils disent que le Brexit dur, il va être embêtant pour l'Europe, mais il va être catastrophique pour le Royaume-Uni, Jenny Bastien.
Évidemment.
C'est en effet ce qu'on dit. Après, en effet, oui, puisqu'en plus, ça pourra signifier un démembrement du Royaume-Uni, puisque l'Écosse et l'Irlande ne sont pas du tout prêts à adopter et embrasser ce Brexit. Donc, en effet, il y a l'unité du pays. Et c'est là le vrai défi, à mon avis, du Brexit. C'est conserver l'unité du Royaume-Uni. Après, je pense qu'il y a un véritable patriotisme britannique qui peut sortir de ces épreuves et ça peut justement leur donner un nouvel élan. Moi, je crois que le Royaume-Uni est un grand pays qui l'a montré au cours de l'histoire. Peut se saisir d'une crise pour s'en sortir. Et d'ailleurs, on prédit à chaque fois la catastrophe, le cataclysme. Je me souviens qu'au moment même du Brexit, on disait que voilà, l'Angleterre allait être à feu et à sang. On voit que deux ans et demi après, ça n'est pas le cas, même si
ils font quand même des réserves de papier toilette.
Oui,
ils n'ont aucune
souveraineté. Ils sont favoris de la Coupe du monde de rugby aussi, il ne faut pas l'oublier.
On nous a dit que ça allait être la nuit de sauterelles et la fin du monde. On voit que pour le moment, ça fonctionne. Comme on nous avait dit la même chose pour l'élection de Trump, moi je me méfie des discours apocalyptiques, je me méfie de la caricature dans le débat public de ces dirigeants dits populistes. Jugeons-les sur leurs actes. On parle de Boris Johnson quand on parlait de Trump comme un fou, un bouffon qui n'aura jamais aucune chance. En attendant, Donald Trump, on peut critiquer ses politiques, mais n'empêche que voilà, il fait des choses, il s'en sort. Attendons de voir, voilà.
Paul Nahon. Beaucoup de gens font des prédictions, vous avez vu ce soir. À votre avis, ça va tourner comment au Royaume-Uni? On va revoter, on va très rapidement, va être obligé de... Il va y avoir une dissolution du Parlement.
Il y aura une dissolution du Parlement, oui.
Donc on va revoter. Oui, on va pas revoter. Sauf si il y a une dissolution et qu'on revote pas, là il y a un autre problème. Quand
non, on va pas revoter pour le Brexit ou pas.
Non, ce que je disais, c'est est-ce que votre avis...
À mon avis, on va revoter dans les 3 mois qui viennent.
Mais c'est un régime parlementaire. Nous, on ne sait pas ce que c'est un régime parlementaire. On est dans un régime présidentiel. Ouais. Donc oui, c'est compliqué, c'est plus long, mais c'est tout le charme de ce pays.
Alexis Poulain, ça va tourner comment, cette histoire?
Alors, pas de boule de cristal. Hein. Ça va tourner sans doute avec, effectivement, possiblement des élections, avec des guerres propres au Parti conservateur, mais aussi avec la question du Labour derrière, le Parti Labour, qui n'est pas clair sur le Brexit. Qui dit, nous, on peut le faire autrement, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et le Parti est complètement déchiré. Donc, en fait,
ils sont autant déchirés que la droite et la gauche sont autant
déchirés. Mais ce qu'a fait le Brexit, c'est incroyable. C'est qu'il a complètement fait éclater ces grands partis historiques, le Labour et les Tories. On a vu le Parti du Brexit, bien sûr, qui est arrivé en tête aux européennes, mais qui est encore là derrière. Il y a eu les libéraux démocrates aussi, nouveau parti un peu centriste qui essaye de faire un coup à la Macron en disant bah, nous, on est complètement anti-Brexit, donc on va essayer de le faire.
La droite et la gauche classiques ont disparu dans quasiment toutes les démocraties occidentales classiques.
Oui, mais là, c'est
en France, en Italie.
En France aussi.
La dislocation. Oui, en France, les républicains n'existent quasiment plus. Cette dislocation, elle est structurelle dans les démocraties occidentales. Évidemment, le Brexit était plus une conséquence qu'une véritable cause de cette dislocation.
Et les populistes arrivent au pouvoir.
Vous savez quoi? On va refaire un débat sur la disparition de la droite et la gauche dans l'Europe occidentale, mais ça sera une autre fois parce que, malheureusement, et oui, c'est comme ça, les informés, c'est terminé pour ce soir. Rassurez-vous, l'info continue sur France Info, mais on va dire au revoir à nos informés. Peut-être la une du Figaro, Jenny Bastier,
si vous la connaissez. La déclaration de
Rogier,
mais c'était à la base sur la PMA qui est aujourd'hui, qui passe demain au Conseil des ministres.
Et le Monde Moderne, il a une?
On était sur Greta.
Eh bien, restez sur Greta. Merci à vous, les informés. Bonne soirée à tous.